Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Mais bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons reprendre cette semaine le Périgord illustré de Michel Négrier. C'est un livre d'un format un peu plus grand que d'habitude et avec des textes de Guy Penaud. Et c'est édité par Art et Trésor du Périgord en 2016. Voilà, alors il y a de très belles reproductions, bien sûr, de toiles de Michel Négrier. Alors, je vais reprendre la quatrième de couverture. Alors, l'ouvrage « Quel magnifique voyage dans le temps » nous est offert par cet artiste peintre du Périgord. Il nous entraîne au fil des pages de château en abbaye de la ville capitale du Périgord, au plus humble bourg à travers les siècles. Grâce à son imagination et son talent, il nous fait revivre tout ce qui fait le charme de cette province, le bonheur d'y vivre, la beauté de ses monuments, la truculence de ses habitants. Vivre dans ces dessins d'une richesse et d'une malice unique nous font découvrir un monde merveilleux et attachant que l'artiste est heureux de nous faire partager. Alors, bien sûr, ça c'est l'ouvrage par lui-même. Alors Michel Négrier, natif du Périgord, cet artiste dont l'œuvre est reconnaissable entre toutes, consacre depuis de très nombreuses années dans son atelier de Périgueux tout son temps au dessin et à la peinture. Son style unique, son imagination fertile et son œuvre abondante ont été consacrées dès 1970 par le prix de la Fondation pour l'avenir du Périgord, initié par Sylvain Farah, et encore tout récemment par le prix de peinture Clusolanov en 2016, décerné à l'unanimité par l'Académie des Lettres et des Arts du Périgord. Bien sûr, il y a le commentateur de tous ces jolis dessins. Alors, Guy Penaud, pour accompagner les œuvres de l'imagier du Périgord, il a été fait appel à cet historien du Périgord, auteur de très nombreux ouvrages sur cette contrée, ses monuments, ses hommes les plus célèbres, les événements qui ont marqué sa riche histoire. Et puis, bien sûr, il y a une recherche, documentation, collaboration à la rédaction des légendes et suivi d'édition par Patrick Lagrange. Donc, c'est un livre édité, je le répète, Art et Trésor du Périgord en 2016 avec un format un peu plus grand que d'habitude, avec de très beaux dessins et il y a une préface d'Antoine Audy qui à l'époque était maire de Périgueux. Voilà, alors on a vu un peu la préhistoire la dernière fois. Alors, dans l'occupation romaine, il y a bien sûr les arènes. Et il y a une des choses les plus symptomatiques de Périgueux, c'est la tour de Vézone. Alors, la tour de Vézone est un vestige du temple gallo-romain de type Fanum, implanté à Périgueux. Elle a été édifiée à Vézuna, l'ancienne capitale romaine des Pétrocores, entre 25 avant Jésus-Christ et le 1er siècle. Avant la conquête romaine, la Dordogne était occupée par le peuple celte des Pétrucors, ou Pétrocors comme on veut, guerriers ayant volé au secours de Vercingétorix au siège d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. La cité des Pétrocors, Civita Petrocoriorum, puis Vézode, Vézuna, en latin occupée une soixantaine, sur 60 hectares, un méandre de la rive droite de l'Is, l'urbanisme et l'architecture de cette ville nouvelle devait exprimer la puissance romaine et favoriser l'adoption par la population locale d'un nouveau style de vie. Vers les années 40 après Jésus-Christ, elle possédait déjà son forum et l'amphithéâtre était en construction. La ville semble avoir été un vaste chantier, au moins jusqu'à la fin du IIe siècle, avec en particulier la construction du grand temple dont le vestige est connu aujourd'hui sous le nom de Tour de Vézone, avec une grande ouverture. Alors, on va laisser la Tour de Vézone se reposer, si je puis dire, et puis on va descendre dans le Périgord, et on va aller à Cadouin. Alors, Cadouin, fondé en 1115 par les cisterciens qui cherchaient le calme et le recueillement loin de l'agitation des bourgs, important, l'abbaye de Cadouin, accueillie en 1117, le célèbre Saint-Suaire, dans lequel le Christ aurait été enveloppé. Depuis, il a été démontré que cette relique n'était pas authentique pour accueillir des têtes couronnées et hauts personnages avant Cette révélation n'avait construit un cloître gothique flamboyant d'une grande beauté. Les moines ne pouvaient que se prosterner devant les visiteurs royaux. Effectivement, c'est un cloître quand même qui est à voir, le cloître de Cadouin. Alors, il y a bien sûr les villes, il y a l'abbaye de Brantôme. Alors l'abbaye de Brantôme, on est un peu dans le sacré, donc on va voir. La ville de Brantôme est construite sur une île ceinturée par la Drôme. On la nomme régulièrement la Venise de Périgord. L'abbaye de Brantôme est un établissement roman, mais avec une voûte de l'église de style gothique. L'abbaye bénédictine de Brantôme aurait été fondée, selon la légende, par Charlemagne au 8e siècle, puis détruite par les Normands en 850. Son clocher isolé date du 11e siècle, et ce serait le plus ancien campanile de France. Élie, comte de Périgord, céda ses droits sur Brantôme à l'abbé de la Chaise-Dieu en 1080. La guerre de Cent Ans causa les plus grands dommages à Brantôme. L'abbaye fut restaurée avant d'être transformée par les Anglais en une sorte de château fort en 1404. L'église abbatiale détruite fut restaurée qu'en 1465 et le cloître fut rebâti en 1480. Le château abbatial en ruine a disparu en 1744. Sa place, un bâtiment existé, a été prolongée pour rendre l'aspect actuel. Voilà. Alors, si vous passez par là, vous pouvez toujours aller faire un saut sur Brantôme et puis à la grotte de Jugement Dernier qui est également à voir. Alors, il y a bien sûr Brantôme, mais il y a des châteaux. Alors, il y a Château de Beignac, un des plus imposants du Périgord, château moyenâgeux qui est sur une falaise qui borde le village, qui surplombe, je veux dire, le village et la Dordogne. Alors voilà le château de Beignac. Beignac est l'une des quatre baronnies du Périgord. Au XIIe siècle, les barons de Beignac édifient le château fort pour maîtriser la vallée. Toute escalade étant impossible côté vallée, les défenses du côté intérieur sont systématiquement doublées, notamment les barbacanes, Douves et ensuite crénelées. Durant la guerre de Cent Ans, le Périgord fait frontière entre la France et l'Angleterre, et le château de Beignac fait face de l'autre côté de la rivière au château de Castelnau, tenu par les Anglais. Alors Richard Cœur de Lion, profitant de la mort d'Adhémar de Beignac en 1189, sans descendance, offrit Beignac à Mercadier, chef des routiers, bientôt assassiné à Bordeaux, ramenant ainsi la baronnie dans la famille d'origine. Le château est bâti autour d'un donjon roman, carré, vertigineux, au rapercement et terminé par une terrasse crénelée. Il a été modifié et agrandi au XVIe et XVIIe siècle. Les appartements conservés des boiseries et des plafonds peints. La salle de réunion des États du Périgord, avec sa belle cheminée Renaissance, est ainsi nommée parce que s'y réunissait la noblesse des quatre baronnies. De somptueuses tapisseries représentant des scènes de chasse et d'autres scènes de la vie de seigneurs de l'époque, ainsi que la reproduction de l'étendard de la famille des Beaumont-Beignard, propriétaires du château jusqu'en 1961. Alors bien sûr, il y a d'autres châteaux, il y a Biron, il y a Bourdeille, sur la Drône, et puis on va arriver à Périgueux. Alors Périgueux, bon, il y a le consulat, la place du Conner, la maison du pâtissier. Maison du pâtissier, alors, tout ça, bien sûr, est très très bien illustré par Michel Négrier, et je vous le conseille, ce livre, si vous pouvez le trouver. Alors Périgueux, il y a le consulat et la place du Conner. Alors le consulat avait, sous l'ancien régime, la même fonction que l'ancien hôtel de ville désaffecté en 2012. Et en son sein, qui était regroupé les administrations des différents pouvoirs locaux, y compris la prison qui occupait le sous-sol du bâtiment. Le consulat fut érigé vers la fin du XIIe siècle sur la place du Conner. Puis, depuis le Moyen-Âge, de grands repas de bienfaisance y étaient organisés régulièrement, durant lesquels on distribuait à nos mondes le bacon, morceau de porc salé. C'est pas moi le bacon. Alors, en 1322, 74 porcs furent abattus par un énorme repas. Entre 1400 et 1650, une halle occupée, une partie de la place du Conner et un puits fut foré dans la première partie du XVe siècle, puis dans lequel fut jeté lors d'une révolte le cadavre de Jean Seguin, proche du maire Jean de Gé d'Ato, La halle fut détruite le 27 mars 1650 par les voisins qui voulaient déloger le régiment de Picardie qui s'y était installé. Aujourd'hui, l'actuel marché couvert a été construit sur l'emplacement du consulat. Alors voilà pour Périgueux. Pour Périgueux, et puis, bon, mais il y a aussi la tour de la Boucherie, le moulin Saint-Front, la tour Mataguerre et la porte Taillefer. Alors, les remparts de... Alors, pour la tour Mataguerre, évidemment, quand on arrive à Périgueux, on ne peut pas la rater, en faisant ça là. Les remparts depuis Saint-Front de Périgueux étaient protégés par de hautes tours et percés de portes fortifiées. La tour Mataguerre et la porte Taillefer plantées face à l'antique cité avaient une grande importance stratégique. La porte est citée en 1947 et la tour fut construite en 1477 avec un toit conique. Elle tire son nom du mot occitan mata, voulant dire maté ou mettre en échec, et de guerre, bien sûr, la guerre. En effet, cette tour fut édifiée lorsque la ville de Périgueux réussit à s'emparer du fort du comte du Périgord, construit initialement au même endroit pour contrôler la ville naissante. Si la porte a été démolie au début du XIXe siècle, la tour, contrairement à toutes les fortifications de la ville, ne fut pas détruite car elle servait alors de magasin à poudre. Alors, on a déjà parlé récemment, alors bien sûr, il y a le puits Saint-Front, il y a la porte Taillefer, et puis la tour Barbacane, puis on va arriver à une des villes les plus emblématiques de la Dordogne, Sarlat. Alors Sarlat, bien sûr, c'est la maison de la Boétie, la maison de la Boétie, la tienne de la Boétie est née à Sarlat en 1530. Très jeune, il écrivait brillamment le discours de la servitude volontaire, ou le contre-homme qui visait la royauté. Quand Amin Montaigne, son collègue au Parlement de Bordeaux, celui-ci fit de lui un éloge appuyé. Publié en 1576, il laissa des traductions du grec ainsi que des sonnets publiés par son ami Montaigne en 1570, puis réédités périodiquement. À chaque soubresaut de la lutte pour la démocratie, 1789-1835, ou 1857 contre Napoléon III, Étienne de la Boétie est décédé jeune à 33 ans en 1563 près de Bordeaux. Sa maison natale trône magnifiquement en plein centre de Sarlat. Voilà, et elle a été, je crois, restaurée très récemment. Alors, bien sûr, il y a le marché aux oies, et puis on va arriver, il y a la Roque Saint-Christophe. Et puis, il y a évidemment Lascaux. On ne peut pas laisser Lascaux de côté. Alors, les peintres de Lascaux. La grotte de Lascaux a été découverte en 1940 par quatre adolescents périgordins de Montignac qui découvrirent un trou qu'ils agrandirent pour se glisser à l'intérieur de la colline de Lascaux. Ce furent eux qui les premiers découvrirent les peintures laissées par leurs lointains ancêtres. Cro-Magnon, évidemment. Alors, Michel Négrier a mis en scène les hommes de Cro-Magnon occupé à peine de précieuses peintures. Voilà. Alors bien sûr, de très jolis dessins, comme je le disais, de Michel Négrier. Voilà. Donc on va arriver à la fin de cette partie. Il y a à la fin de ce livre des choses qui sont plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus personnelles, comme l'aquarium, alors le sol pêcheur. Évidemment, il y a l'homme primitif, le Chabrol. Alors ça, bien sûr, le Chabrol, c'est une institution périgourdine. Et tout le monde, je pense, appelle Chabrol la Vierge médiévale, le cobra de la tempête. Et puis, il y a bien sûr beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, si vous pouvez vous le procurer, je vous conseille le Périgord illustré de Michel Négrier avec des textes de Guy Penaud. Voilà. Et c'est aux éditions Art et Trésor du Périgord. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, et puis à lundi prochain.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.